Bande dessinée en fugue, Fabrice Henriot et Thierry Saint-Saulieu.
Bonjour Thierry.
Bonjour Fabrice.
Aujourd'hui, bien, nous restons chez le même éditeur que la semaine dernière. Rassurez-vous, nous n'avons pas été payés pour cela, mais il se trouve que ce sont les sorties qui nous y amènent et que cet album que nous allons vous conseiller et partager avec vous aujourd'hui est effectivement tout à fait intéressant. Alors, la semaine dernière, nous étions plutôt au Moyen-Âge. Nous avançons un petit peu dans le temps. J'avais évoqué le fait, je ne sais pas si vous vous en souvenez, que récit qui portait sur le procès d'un animal à cette époque, eh bien, correspondait à une réalité, puisqu'effectivement, du XIIIe siècle au XVIIIe siècle, eh bien, il y a eu des procès d'animaux tout à fait concrets devant une cour. Eh bien, là, nous sommes donc au XVIIIe siècle et nous allons parler d'un sujet qui va à nouveau nous faire, je crois, un peu frémir avec cet album, donc paru chez Delcourt Collection Mirage, « La sage-femme du roi ». Un album avec au scénario Adeline Laffitte, qui a beaucoup travaillé au magazine Parents. Et si je fais ce lien, c'est intentionnellement, parce que ça a une raison d'être. Au dessin, il y a Hervé Dufaux. Hervé Dufaux qui avait produit avec Adeline Laffitte un album qui avait pour titre le Manifeste des 343. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, Thierry ?
Oui, c'est même confondant de mettre en parallèle ces albums, parce que dans les deux cas, il s'agit de conditions féminines, de disposer de son corps et d'enfantement. Il y a une profonde logique dans la succession de ces ouvrages.
Et on fera certainement ce lien à nouveau en fin de chronique. Alors ici, donc, il s'agit d'une sage-femme du XVIIIe siècle qui s'appelle Angélique Ducoudray et qui va, en quelque sorte, révolutionner la manière à laquelle les femmes accouchent.
Est-ce que c'est une féministe ? Au sens moderne du terme, non. Est-ce qu'elle a fait avancer la cause des femmes ? Est-ce qu'elle a fait en sorte que les femmes bénéficient de soins plus adaptés ? Certainement. C'est une femme visionnaire. Parce qu'à une époque où les bases de la médecine moderne commencent tout juste à être établies, c'est quelqu'un qui va mettre au point, qui va rédiger un livre, qui va mettre au point un dispositif au sens tout à fait matériel du terme pour faciliter l'enfantement et l'accouchement des femmes. C'est quelqu'un qui va malgré tout se heurter à la domination masculine dans ce domaine, celle des barbiers. C'est pas quelqu'un qui va forcément lutter contre certaines pratiques de son époque. Je pense à la saignée, qui est communément admise. Aujourd'hui, ça fait frémir, mais à l'époque, on pensait que en saignant les personnes, on évacuait les humeurs toxiques qui étaient dans le sang.
On a beaucoup entendu parler avec Molière. Je crois qu'il n'était pas très convaincu, lui.
Oui, il l'a éprouvé dans le mauvais sens du terme. Il l'a fait savoir. C'est un personnage qui va connaître la célébrité, je dirais pas la gloire, mais la célébrité, au point que le roi Louis XV va reconnaître ses capacités et va lui permettre d'exercer son art au plan national. Parce que c'est aussi l'occasion de faire un portrait des différences qui existaient dans ce domaine entre les classes sociales, entre la Paris et la province.
Entre les villes, globalement, mais c'est vrai que Paris était un centre, comme c'est le cas aujourd'hui. Et puis, oui, les zones de campagne.
Oui, la campagne, pour caricaturer, les paysannes enceintes pouvaient partir au champ le matin et revenir le soir avec un enfant dans leur linge. Pas question de s'arrêter de travailler pour enfanter. Les conditions, plus généralement, d'accouchement pouvaient être terrifiantes parce qu'on s'y prenait mal. Les femmes risquaient d'être mutilées. Les bébés pouvaient être retirés au forceps au point qu'on les mutilait, on écrasait les membres, enfin, des exemples dans le livre qui sont assez terrifiants.
Tout à fait, quand ce n'était pas la mort, parce que souvent, oui, les femmes mouraient en couche et les bébés avec. C'est quelque chose, je crois, qu'on ne réalise plus du tout dans un pays comme le nôtre. Alors peut-être quand on voyage, ça arrive qu'on soit confronté à ces situations-là, mais on ne se rend pas compte du fossé qu'il y a entre la vie que nous avons aujourd'hui, qui n'est pas toujours parfaite, et celle qu'éprouvaient les femmes de cette époque.
Oui, de ce point de vue-là, on peut se plaindre que l'enfantement est trop médicalisé, trop pris en charge, tellement pensé, cadré, qu'on risque de perdre la... Alors, j'enfile les perles des clichés, là, que cet acte merveilleux, ce miracle, devienne une pure procédure médicale, mais si on se rapporte à cette époque et même à des époques qui ont suivi, c'était terrifiant de penser à quelle douleur, à quel péril ces femmes étaient confrontées. On le disait au début de cette chronique, à la différence entre Paris et la province, entre les grandes villes. La province, et cette différence, Angélique Ducoudray va l'éprouver puisqu'elle commence à être connue par ses travaux. Je parlais de dispositifs. Alors, c'est étonnant et ça existe encore. Le matériel était préservé. Elle avait construit un mannequin qui représentait un corps de femme et des poupées de chiffon qui représentaient les enfants, le tout simulant parfaitement l'anatomie d'une femme. Et elle savait que la majorité de la population, surtout en province, ne savait pas lire. Donc, pourquoi écrire ces conseils? Il fallait le montrer, c'était beaucoup plus efficace. Cette machine existe encore, parce qu'on l'appelait la machine de Madame Ducoudray.
Voilà, on l'a d'ailleurs en photo dans l'album, hein, mais il ne faut pas la dévoiler trop rapidement non plus. Ce que va faire Anne Ducoudray, c'est qu'elle va effectivement partir de Paris. Elle va être invitée dans une ville qui est Thiers, par un baron, pour faire ses preuves en quelque sorte, enfin pour expérimenter, du coup elle va pouvoir le faire.
Elle va se heurter à une résistance féminine vis-à-vis des matrones, des sages-femmes qui sont chargées de mettre au monde les enfants parce qu'elles ont déjà mis au monde leurs propres enfants, qui ont un savoir très limité. Donc en fait, tout au long de sa vie, et j'oserais dire de sa carrière, Angélique Ducoudray s'est heurtée à des réticences de clans, de castes, de savoir furieusement préservés. Elle a lutté contre les méconnaissances et l'esprit de préservation d'un pouvoir juste ou injuste sur ce domaine. C'est quelqu'un qu'on connaît mal personnellement, enfin dans sa vie intime, sa vie de femme autre que sa vie de pionnière de l'accouchement raisonné. Là, les auteurs avouent qu'ils ont un peu brodé pour en faire un personnage plus consistant. Mais on est assez bien informé sur sa carrière, j'oserais dire. Les archives ont été préservées.
Donc elle va avoir la reconnaissance du roi Louis XV, qui va, peut-être parce qu'elle a sauvé de nombreuses vies, manifester que sa compétence est bel et bien réelle en lui offrant un brevet royal, ce qui n'est pas rien, d'autant plus pour une femme. Et la question que j'ai envie de poser, c'est des siècles après Thierry, est-ce que ce qu'elle a inventé reste d'actualité? Et la réponse est presque dans la question.
Et alors il paraît que même la position de la femme enfantant ou la position de la femme lors d'un examen gynécologique est basée sur ce qu'avait inventé Angélique Ducoudray. Donc il y a des choses qu'elle avait, par son bon sens et par son côté visionnaire, mis en pratique, qui sont toujours d'actualité. C'est un ouvrage vraiment passionnant, vraiment plein de finesse et puis de subtilité qui renvoie à tellement de questions actuelles et à venir, malheureusement, que je vous conseille chaudement de le lire.
Ce que je me dis aussi, c'est qu'à l'époque, effectivement, on ne connaissait pas forcément bien le corps humain, peut-être encore moins le corps des femmes. Mais si je fais un parallèle avec le XXIe siècle, il y a encore des découvertes en ce qui concerne le corps des femmes et leur mode de fonctionnement aujourd'hui. Donc on n'a pas fini de continuer d'avancer.
Oui, si c'est, ça nous renvoie à une époque où, je le disais, c'est le balbutiement de la médecine moderne. Je pense, je me permets d'imaginer que la médecine, on a beau avoir des avancées scientifiques en termes d'analyse, d'instruments, de mesures et puis de traitements, ça reste quelque chose de très empirique où on cherche en permanence et en permanence on est dans un état balançant entre les croyances, les faits avérés, les avancées et suivant les régions du monde, les retours en arrière. Finalement, les choses évoluent mais changent-elles tant que cela ?
Et ce qu'on appelle la science n'a pas forcément toujours réponse à tout et ne mérite pas nécessairement d'être suivi à chaque fois. Enfin bon, je ne veux pas lancer la polémique, mais non. Ça pose ce questionnement-là parce que...
Voilà, ça pose des questions qui sont vraiment très sensées.
C'est la raison pour laquelle, enfin ce sont les raisons pour lesquelles nous vous conseillons la lecture de cette Sage-femme du roi, La Sage-femme du roi, donc un album paru chez Delcourt, collection Mirage, où vous découvrirez, si vous ne la connaissez pas déjà, Angélique Ducoudray. Il s'agit donc d'un album réalisé au scénario par Adeline Lafitte et au dessin par Hervé Dufaux. Merci beaucoup Thierry de nous l'avoir présenté aujourd'hui. On se retrouve pour une autre lecture la semaine prochaine.